France Inter. L'heure philo. Bienvenue dans l'heure philo. Lilian Allôm à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Julien Dumont à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
Il est rare que des théories philosophiques donnent leur nom à un café ou même à un hôtel, et pourtant c'est le cas à Paris et peut-être même ailleurs. La French Theory, c'est d'elle qu'il s'agit, n'est pas facile à définir, plus facile à déglinguer sans doute, quand on veut faire son effet et qu'on la traite de virus. Mais non, monsieur le ministre, ne vous sentez pas visé. Il fut un temps où quelques penseurs venus de France fréquentaient les campus des universités américaines. Ils étaient même les bienvenus dans les colloques. Leurs noms nous sont familiers. Jacques Derrida, Michel Foucault, Félix Guattari, Gilles Deleuze et d'autres encore. Des rebelles, comme l'a dit Gilles Deleuze, les gens n'ont de charme que par leur folie.
Les gens n'ont de charme que par leur folie. Voilà ce qui est difficile à comprendre. Le vrai charme des gens, c'est le côté où ils perdent un peu les pédales. C'est le côté où ils ne savent plus très bien où ils en sont. Ça ne veut pas dire qu'ils s'écroulent, au contraire, c'est des gens qui ne s'écroulent pas. Mais si tu ne saisis pas la petite racine ou le petit grain de folie, tu peux pas l'aimer. C'est bien le côté où il est complètement quelque part. On est tous un peu dément. Si tu saisis pas le petit point de démence de quelqu'un, alors j'ai peur ou je crois ou au contraire, je suis bien content que le point de démence de quelqu'un ce soit la source de son charme même. Ouais.
Pour mieux appréhender cette French Theory, deux invités, François Cusset, co-auteur à la découverte d'une BD intitulée French Theory, itinéraire d'une pensée rebelle, co-auteur avec Thomas d'Aquin. Je disais BD, c'en est une, mais on peut aussi appeler ça un essai graphique. François Cusset a également publié il y a quelques années un essai consacré à la French Theory. David Lapoujade, quant à lui, a préparé l'édition de cours donnée par Gilles Deleuze. Cela donne deux livres publiés aux éditions de Minuit. L'un intitulé « Sur l'appareil d'État et la machine de guerre », l'autre « Sur les lignes de vie », et ce, à l'occasion, c'était, on triche un tout petit peu, c'était l'année dernière, mais à l'occasion du centenaire de la naissance de Gilles Deleuze, qui est né le 18 janvier 1925. Alors, un mot au sujet de Deleuze, de ce qu'il disait, ce qu'on l'entendait dire, on est tous déments, et c'est ce qui fait au fond notre charme, François Cusset.
Oui, bien sûr, c'est fabuleux de l'entendre. Après, changement d'époque, c'est-à-dire que le petit grain de folie garde son charme, mais le gros caillot de psychopathe qui est en train de bloquer le chenal mondial, c'est autre chose. Mais oui, Deleuze est toujours là.
David Lapoujade.
Il est attentif au charme. Et effectivement, la période manque un peu de charme de ce point de vue, je suis d'accord avec François Cusset. Mais il est vrai aussi que c'est ce qui échappe aux gens qui fait toute leur puissance de séduction.
La French Theory, en fait, c'est un terme qui a été inventé par les Américains pour attirer au fond les étudiants vers les humanités, c'est ça, François Cusset ?
Oui, la French Theory n'existe pas. C'est une technique d'emballage. Vous savez, comme on peut mettre un cadeau dans du papier cadeau, d'emballage, alors un peu comme le French Kiss, une manière d'emballer. En tout cas, les Américains étant évidemment un peu loin de ces philosophes des années 60-70, une fois qu'ils les ont importés, de manière un peu stratégique, c'était pour réenchanter leurs études de philo et de littérature que les gens fuyaient, parce que c'était la crise et que ça sert à rien. Ils les ont réunis, ces auteurs. D'ailleurs, c'est une catégorie ouverte, plein de gens peuvent y rentrer, sous ce label, qui est une façon de réunir, de grouper, de catégoriser. Mais quant à la définir, du coup, c'est quasiment impossible.
Mais est-ce qu'on peut dire, grosso modo, que c'est une pensée transgressive ?
Oui, avec toutes les limites du mot, parce que, voilà, d'abord, il y a un cliché, un peu, une sorte de stéréotype culturel. Ce qui est français est transgressif, ce en quoi les Américains de l'époque avaient tout à fait tort, puisque, évidemment, Foucault et Deleuze n'ont pas leur statut dans la cour de la Sorbonne, on le sait bien. Donc, tout ça est marginal, quand même. Mais en tout cas, oui, disons que c'est une façon de faire un enfant dans le dos, pour citer Deleuze, à la philosophie traditionnelle et à la longue histoire de la philo. Ça, oui.
Alors, ce qui est incroyable, David Lapougeade, c'est qu'on a du coup traité ces philosophes français dont je donnais quelques des noms comme des stars. Michel Foucault, il a été considéré à un moment donné comme un gourou, photographié, torse nu. Jacques Derrida, à l'université de Yale, il y avait la banque des quatre et tout se passait autour de lui. Enfin, c'est vraiment des, c'est pas des rockstars, mais quasiment.
Oui, c'est un petit peu différent dans le cas de Deleuze, parce que, à la différence des deux que vous venez de mentionner, il n'a pas voyagé.
Il avait horreur des voyages, c'est
il
ça?
Il détestait les voyages, il est allé une fois aux États-Unis, et si je ne me trompe, il a, ils sont arrivés avec un jour de décalage, si bien qu'ils ont loupé tous les rendez-vous qu'ils avaient pour faire des conférences et autres. Donc le rendez-vous, disons, avec les campus américains a été plutôt raté de ce point de vue-là, et Deleuze ne parlant pas anglais, qui plus est. Deleuze est un petit peu différent, même s'il a été ses ouvrages ont été très lus et très populaires, et le sont toujours aux États-Unis. Je pense pas que l'effet immédiat ait été aussi puissant que pour Derrida et pour Foucault, mais François Cusset, on sait peut-être plus long sur ce point.
Oui, alors l'unique voyage de Deleuze, effectivement, qui trouvait que voyager, ça effraie les devenirs, hein, c'est passé très bizarrement, ouais, effectivement. Il est arrivé en retard, bon, il est arrivé pour une sorte de colloque un peu déjanté. Après, il a été à un concert de Bob Dylan, puis en Californie, rencontrer les Black Panthers, parce que l'artiste français Jean-Jacques Lebel avait organisé comme ça une sorte, en se disant, bon, Deleuze voyage jamais, faut quand même qu'il voit des choses. Mais il n'est jamais revenu, malgré l'insistance de ses fans et de ses lecteurs américains. Mais moi, je voudrais inviter peut-être à retirer le biographique de cette affaire, parce que, bien sûr, Foucault y a enseigné, Derrida aussi, mais l'affaire n'est pas biographique. C'est la mort de l'auteur, hein. C'est le grand thème de cette époque-là. Ce qui compte, c'est pas les bons hommes en question. Hélas, il n'y a pas beaucoup de bonnes femmes.
Ce qui compte, c'est...
Oh, quelques-unes, ouais, mais c'est une autre affaire.
En bon. Arrière-plan.
Ce qui compte, c'est les textes. Et ce qu'on en fait. Et les usages des textes, et les détournements des textes, et voilà. Et cette espèce de plasticité incroyable, voilà, des interprétations. Si bien que tous, alors là, pour le coup, ils avaient tous en commun d'être stupéfaits, éberlués, et parfois exaspérés, parce que les Américains faisaient de leurs textes.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Et c'est d'ailleurs la dernière page de votre BD, François Cusset, quand Deleuze dit « Le pouvoir nous veut triste ». C'est tristement prophétique?
Oui, beaucoup de choses sont prophétiques chez Deleuze. Bah, d'abord, il faut comprendre que il y a une joie de penser, que voilà, son trajet, ses textes, sa voix incarne merveilleusement, et que cette joie, oui, chez certains auteurs barbants, chez certains réacs, et puis dans une philosophie un peu scolaire, bah, on la perd. Et puis plus politiquement, il faut comprendre que l'aliénation, hein, par le pouvoir de nos désirs et de nos capacités de résistance, ça commence et ça finit par la tristesse. Oui, bien sûr, il faut qu'on soit, vous savez, le taux de dépression là qui diagnostiqué, qui augmente d'année en année, c'est ça en fait, c'est-à-dire, augmente-t-il vraiment? À quel moment est-on déprimé? À quel moment ne l'est-on pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on le soit pour que le pouvoir reste en place.
David Lapougeade.
C'est très lié à une influence qui est celle de Spinoza, où Spinoza disait déjà que le tyran excite les passions tristes, et les passions tristes consiste dans la diminution de notre puissance d'agir, et donc l'idée qu'il faut nous impuissanter de plus en plus et qu'il faut nous rendre incapables de la moindre transformation sociale qui ne va pas dans le sens de cette diminution de notre puissance d'agir, bah effectivement ça provoque de la tristesse au sens le plus large du mot, c'est-à-dire effectivement dépression, psychose, souffrance psychique, désespérance, etc.
Michel Foucault.
On nous a fait croire, on essaie de nous faire croire encore maintenant, que nous vivons dans une société juridique où règne la loi. L'importance du législateur, l'importance politique du législateur, nous est enseignée dès l'école primaire. Or, moi, il me semble que la loi est finalement une sorte d'institution dont la désuétude ne cesse de se marquer davantage. Il est vraisemblable que le respect de la loi, l'importance de la loi, ça a été un instrument politique important dans la lutte contre la monarchie, contre le pouvoir absolu, contre son arbitraire. Mais que maintenant, autrement dit, elle a eu une importance négative, la loi. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vit dans une société qui n'est pas de la loi, mais qui est de la norme.
Quelle différence vous faites entre les deux ?
Eh bien, tout simplement, c'est que la loi fait un partage binaire. C'est-à-dire, il y a ce qui est légal et ce qui est illégal. Bon, la norme, au contraire, elle établit des gradations. On peut être plus ou moins normal, plus ou moins proche ou plus ou moins éloigné de la norme. Deuxièmement, la loi n'intervient que dans un certain nombre de cas déterminés, qui sont les cas d'infraction. La norme, au contraire, elle intervient tout au long de votre vie. Vous êtes normal ou pas à l'école, vous êtes normal dans la manière dont vous marchez dans la rue, vous êtes normal dans votre situation de famille, vous êtes normal ou pas quand vous faites l'amour, etc. La loi, elle vous lâche souvent, ou elle n'intervient que de temps en temps. La norme ne vous lâche jamais.
Des normes intériorisées à notre insu, c'est ça le plus grave, François Cusset ?
Oui, c'est extrêmement important ce... Bref passage, Foucault est évidemment le penseur de ce tournant-là, c'est-à-dire la transformation historique des technologies de pouvoir, comme il disait, qui effectivement était davantage fondée sur la loi. Alors attention, la loi, c'est pas toujours la bonne loi. N'oublions pas que le Troisième Reich avait un système légal, etc. Enfin, la loi, voilà, on fait ce qu'on veut. Mais la loi, effectivement, elle est ponctuelle. Il y a des fois où on n'y pense pas, parce que, voilà. La norme, elle est permanente, elle est continue, elle vous module, elle vous forme, elle est intérieure. Nous en sommes le relais en permanence, alors que de la loi, bon, on n'est pas vraiment des gendarmes. Voilà, donc c'est une forme de pouvoir plus douce, j'en sais rien parce que c'est un mot dangereux, mais en tout cas plus continue, plus intégrale, et c'est de ça que parle Foucault.
Et Deleuze était d'accord avec ça ?
Oh oui, oui, bien sûr, d'autant que je crois qu'il admirait chez Foucault d'avoir construit ce couple qui met en rapport la loi et les illégalismes. Mmh. C'est-à-dire que la loi est inséparable dans son institution même des manières de la contourner, de l'esquiver, et l'institution même de la loi, elle comporte sa part d'illégalisme. Alors que la norme, c'est effectivement, tel que Foucault en parle là, et Deleuze serait assez d'accord, c'est que il est très difficile d'y échapper parce que elle ne cesse pas de s'exercer dans tous les domaines de l'existence et tout au long de la vie. Donc, alors les termes que Deleuze emploierait, lui, ce serait plutôt ce qu'il appelle la segmentarité. Donc il y a des segmentarités qui gouvernent nos existences, segmentarités tantôt dures, binaires, hommes, femmes, travail, chômage, vie, mort, vieillesse, jeunesse, etc. Et puis des segmentarités plus souples, dont il parle d'ailleurs dans le cours sur les lignes de vie, où les zones deviennent plus floues, plus indécises, mais il n'empêche que c'est souvent encore la norme qui travaille. Oui.
Alors ces philosophes dont on parle formaient une bande, peut-être même un... Je sais pas, on peut pas dire un bloc, parce qu'ils pensaient pas tous de la même manière. Il y a eu beaucoup d'engueulades, non, entre eux, mais ils avaient peut-être qu'ils se retrouvaient sur des ennemis communs, je sais pas, François Cusset.
Oui, le commun étant négatif, c'est-à-dire c'est une pensée en rupture avec une génération, en rupture d'ailleurs avec le grand maître qu'ils ont tous eu, parce que c'était leur maître, je relisais un texte de Deleuze là-dessus, qui est Jean-Paul Sartre. Et effectivement, on quitte voilà le règne immense de Sartre sur la pensée française, et on est passé à autre chose par le structuralisme et par cet après du structuralisme. Donc c'est plutôt en négatif, c'est ce qu'ils ne sont plus. Après, entre eux, ça n'a rien à voir. Alors il y a une grande amitié philosophique et politique majeure entre Foucault et Deleuze, mais elle n'a qu'un temps. Il y a évidemment une collaboration très très directe entre Deleuze et Guattari.
Donc là, c'est à quatre mains, voilà, on peut dire.
Qui ont écrit quatre livres à quatre mains. Pour le reste, oui, engueulade sans fin. Mais d'ailleurs, de très beaux débats. Le débat entre Foucault et Derrida, enfin, qui est plutôt une rixe rhétorique sur l'histoire de la folie, c'est-à-dire où Derrida lui dit mais en fait, le cogito de Descartes est un acte de folie et non pas un acte rationnel qui pose la raison comme pouvoir. Enfin, c'est passionnant. C'est à relire aujourd'hui. Mais effectivement, ils étaient d'accord à peu près sur rien.
David Lapoujade ?
Il y a des tensions, des rivalités, des amitiés qui se nouent, qui se dénouent en fonction aussi de la période politique qui est très très intense. Disons qu'il y a, comme le dit Deleuze au sujet de sa relation avec Foucault, il y a un fond commun. Mais à partir de ce fond commun, il y a beaucoup de divergences. En tout cas, entre Foucault et Deleuze, je crois que c'est l'amitié la plus forte à travers tous les membres dont on a parlé, si on laisse Guattari de côté. D'ailleurs, si je ne me trompe, Deleuze est un des seuls à avoir participé à ce que Daniel Defer et Michel Foucault avaient instauré ensemble, qui était le groupe Information Prison. Il y a eu évidemment d'autres intellectuels, mais parmi les philosophes, je crois qu'il n'y avait que Deleuze qui a pu rejoindre à un moment le groupe. Donc il y avait vraiment des solidarités solidarité politique, des divergences théoriques, comme il est normal d'ailleurs, parce qu'elles signent l'originalité de chacun.
Juste pour un petit exemple complètement anecdotique du genre de mots de noms d'oiseaux qui pouvaient s'envoyer, lorsque Jean Baudrillard, parce qu'il fait partie de cette bande-là, a publié son petit texte « Oublier Foucault », parce qu'il adorait aller contre la voix commune, puisqu'effectivement c'était l'époque du plus grand succès de Foucault. La seule réaction de Foucault, ça a été « Moi, mon problème, ça serait plutôt de me souvenir de Baudrillard ».
François Cusset, David Lapoujade, vous êtes nos invités et vous nous aidez donc à comprendre ce qu'est cette French Theory qui a fait son succès et pourquoi on l'avoue aux gémonies. Patti Smith sur France Inter. Dig if you will the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling. Can you picture this? Big if you will, a courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. A jazz leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Alors, faisant partie de ce monde, Félix Guattari, psychanalyste, philosophe, et il a contribué, rappelons-le, à la création de la clinique de la Borde avec le psychiatre Jean Horry.
De toute façon, il y en avait bien d'autres qui avaient fait cette rupture, tout en disant se réclamer de l'orthodoxie. Il y avait en particulier Lacan et les Lacaniens qui ont fait une rupture avec le freudisme, mais qui ne veulent pas le reconnaître, c'est leur affaire. Mais nous, c'était peut-être encore plus une rupture avec le structuralisme dans la psychanalyse. C'est-à-dire, justement, on en parlait au début, le fait de réduire les productions de l'inconscient à des faits de langage et de réduire l'analyse à un travail relatif au langage. Et d'ailleurs, à un travail finalement très pauvre, puisque très souvent, malheureusement, les psychanalystes structuralistes se contentent d'écouter sans aucunement intervenir, sans... en faisant toute une théorie sur le fait que c'est comme ça que ça devrait se passer, seulement par l'écoute et le silence, ce que je ne crois pas du tout pour ma part. Alors, rupture, parce que au fond, nous, on disait, ben oui, c'est en effet très important, cette subjectivité inconsciente, hors normes, hors des cadres ordinaires. Mais alors, c'est pas seulement quelque chose qu'on va cerner, qu'on va saisir dans le cabinet du psychanalyste, surtout avec la tournure qu'ont pris les choses, mais c'est quelque chose qui se pose aussi bien n'importe où, hein, dans une classe, par exemple. Il y a tout un courant de pensée autour de Fernand Houry, dans le sillage de Célestin Freinet, qui dit on peut faire une sorte de psychanalyse à l'école, dans certains types d'écoles. Notre attaque contre Freud et contre Lacan, c'est finalement au nom de la découverte psychanalytique. C'est pour que l'analyse continue et ne s'enlise pas dans ces querelles dogmatiques, dans ces chapelles qui, finalement, nous présentent une pratique de l'analyse de plus en plus pauvre, de plus en plus stérile.
C'est-à-dire qu'il fallait un peu sortir du cabinet.
Oui, oui, évidemment. Et même en restant dans le cabinet, sortir du cabinet, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres au moins du cabinet et être préparé à entendre toutes sortes de choses, toutes sortes d'autres problèmes que les problèmes strictement d'identification au père, à la mère, les problèmes intrafamiliaux ou toute cette cuisine qu'on appelle les mathèmes de l'inconscient tels que les structuralistes l'ont développé.
Guattari, psychanalyste atypique, on peut dire que c'était un militant, David Lapougeade ?
Ah oui. C'était un militant dès le plus jeune âge et incessamment. C'est quelqu'un qui ne pensait que en groupe et que collectivement, qui avait besoin de travailler à plusieurs. Et de ce point de vue-là, le travail mené avec Deleuze était une sorte de rapt de la part de Deleuze qui le soustrayait à ses activités multiples.
Et quand il a découvert New York, ça a été un choc.
Ah oui, oui, je crois que ça a été quelque chose de considérable parce que c'est une ville qui a un grouillement incessant et qui contrastait tellement avec disons l'ordre bourgeois parisien que je crois, oui, ça, c'était un choc pour quiconque allait là-bas d'ailleurs.
À New York, c'est le fou qui est psychiatre, François Cusset.
Ouais, qui est une formule d'ailleurs Foucault, Deleuze, comme Guattari. Guattari adorait se perdre dans New York. Il y allait tout seul, comme ça, discret. Et puis la question de la foule. Hein. Nous sommes des foules peuplées ou des déserts peuplés, hein, disait Deleuze. Donc il y a cette idée que ça, c'est de l'infra-individuel. C'est pas vraiment de l'individu, c'est des morceaux de nous qui se promènent. Et puis il y en a d'autres morceaux qui sont ailleurs. Dans l'extrait, on entend bien la révolution qu'apportent Deleuze et Guattari. Pas seulement à la psychanalyse et à la théorie de l'inconscient, mais en fait à tout et à la politique. Cette révolution, c'est le titre de leur premier livre ensemble, hein, l'Anti-Oedipe. Et voilà, où ils redéfinissent le désir. Et en fait, le désir qui était effectivement dans la psychanalyse défini en négative, comme manque, comme interdit, comme ce qu'on peut pas faire au lit avec papa-maman, est désormais une force de production, un flux, une puissance, quelque chose de positif et d'actif, qui va d'ailleurs être canalisé, récupéré, détourné par le capitalisme ou les autorités. Mais voilà, c'est une vraie révolution théorique et politique qui porte le visage de Deleuze et Guattari.
David Lapougeade, Gilles Deleuze, on peut se dire que c'est un style aussi. Ses cours à la faculté de Vincennes, où il a enseigné quelque temps, c'était le mardi matin, ne ressemblent à aucun autre. À personne.
Oui, c'était très particulier. Bon, d'une part, compte tenu de cette voix qui est désormais assez célèbre, et puis il y avait cette capacité chez Deleuze à partir sans aucun présupposé, c'est-à-dire qu'il ne supposait rien de connu chez ceux auxquels il s'adressait. Il partait vraiment de la manière la plus simple, la plus lisible possible, la plus accessible possible, et progressivement ça se complexifiait, mais parce que le sujet l'exigeait. Disons que, d'un point de vue général, il s'adressait à tout le monde. Il n'y avait aucune, conformément d'ailleurs à ce que l'université de Vincennes proposait.
Qui n'a pas duré très longtemps.
qui a pas duré très longtemps à Vincennes, mais qui s'est ensuite qui a été transféré brutalement à Saint-Denis. Mais l'idée, c'est qu'il y avait pas de différence de niveau, donc on s'adressait de la même manière à des gens qui étaient en doctorat ou je ne sais quoi, qu'à des gens qui passaient par là, des curieux, des chômeurs, des étrangers de passage, des artistes, et c'était accessible à tout le monde.
Et de toute façon, lui, il aimait bien aussi rapprocher la philosophie et la littérature. Il y a beaucoup d'auteurs qui l'adoraient, Deleuze.
Oui, philosophie et littérature, mais philosophie et peinture, philosophie et politique, philosophie et quelque chose d'autre que la philosophie. Il fallait toujours que la philosophie soit branchée ou connectée à du non-philosophique, exactement comme Guattari disait tout à l'heure que l'inconscient devait sortir de ce carcan familial dans lequel la psychanalyse classique l'enfermait, et que on se rende compte que l'inconscient est branché sur des questions directement sociales et politiques.
Vous, David Lapoujade, vous êtes... vous baignez dans les cours de Gilles Deleuze, puisqu'on en a des traces. Il y a des gens qui enregistraient ces cours, et c'est ces traces-là qu'on a.
Tout à fait.
C'est pour ça qu'on l'entend. Qui ne sont pas toujours très bonnes, d'ailleurs, techniquement.
Plus la popularité de Deleuze a grandi, plus il y avait de magnétophones sur son bureau, au point que les dernières années de cours, il y avait au moins une vingtaine ou une trentaine d'appareils sur son bureau.
Sur les lignes de vie, donc un des deux essais dont vous avez préparé l'édition, sont ses derniers cours ?
Non, ce sont les derniers cours qu'il a fait à l'université de Vincennes.
De Vincennes, d'accord.
Avant que Vincennes soit détruite par...
Alice Saunier-Saïté, enfin, pas elle directement.
Sous
elle
la direction, pas... oui, c'est voilà. Alice Saunier-Saïté qui désirait marteau, la destruction mais... de Vincennes et qui a obtenu l'autorisation de Jacques Chirac à l'époque, qui était maire de Paris. Et en trois jours, ce bâtiment, qui avait pourtant été construit dans le dur, a été complètement rasé.
François Cusset, un mot de Vincennes ?
Oui, enfin la fin de Vincennes, c'est d'ailleurs la fin de beaucoup d'autres choses, puisque c'est cette fin des années 70 qui est un tournant, pas seulement dans le bois de Vincennes, mais français, européen, mondial, et qui nous fait basculer dans un cycle de contre-révolutionnaire, hyper réactionnaire, dont on est en train de voir l'accomplissement à grande échelle aujourd'hui. Mais en attendant, Vincennes, ça a duré, Vincennes à Vincennes, parce que c'est vrai qu'à Saint-Denis, il se passe aussi des choses super, mais Vincennes à Vincennes, ça a duré un peu plus de 10 ans, et ça a été une expérience incroyable, absolument géniale. Alors, il y a eu tout, il y avait des grèves, de la rhétorique marxiste un peu à l'ancienne, mais il y avait aussi les cours de Deleuze, l'apparition ici ou là de Foucault, de Serge Leclerc, de gens improbables, et une égalité des intelligences, comme le disait David Lapoujade. C'est vraiment confiance à tout le monde est là, y compris ceux qui n'ont pas le bac, et puis ce qui compte, c'est que ça passe, et que ça fasse action et changement politique.
Gilles Deleuze, en plein cours.
Quand vous lirez du Platon, celui qui est interrogé par Socrate, il dit toujours « Oui, d'accord, Socrate ». Alors, mettons, Socrate dit « Le faux n'a pas de forme ». L'autre dit d'abord « Socrate, je ne comprends pas du tout ce que tu veux dire ». Socrate, il va, repart à zéro, lui dit « Eh bien, prends l'exemple de quelque chose de faux, d'une chimère ».« Oui, dit l'autre, je prends l'exemple d'une chimère ». Eh bien, dis-moi la forme d'une chimère. Il dit, mais la seconde d'après, dit Socrate, la chimère, j'invente, c'est pour vous donner, pour ceux qui n'ont jamais lu Platon, pour vous donner le ton. Socrate répond, ah ben oui, mais tu dis que la chimère, elle a des ailes et puis des sabots et puis des grandes dents, mais la seconde d'après, là qu'elle a plus de dents du tout, l'autre dit « Ah oui, Socrate, mais oui, c'est vrai, j'ai vu ça, c'est comme tu dis. » Alors, il finit par faire dire « Elle a une infinité de formes. »« Oui, dit le disciple. » Alors, Socrate, il dit « Mais s'il y a une infinité de formes, est-ce qu'on peut dire que ça a une forme ?» Alors, l'autre, il est embêté, il dit « Ah, toujours c'est par Zeus. Ah, par Zeus, Socrate. » Non, on ne peut pas dire que s'il y a une infinité de formes et une forme. » dit Socrate, mais alors tu te contredis, ça va pas du tout. Alors l'autre il dit, je veux plus te parler.
C'est merveilleux, non, si tous les profs de philo étaient comme ça. Mais ces cours, c'était un peu le laboratoire de ces livres, en fait, David Lapoujade.
Complètement, en fait, les cours étaient très préparés, mais rien n'était rédigé. Donc il avait une sorte de canevas, il avait des points qu'il voulait développer. Et à partir de là, bah, il improvisait, et puis il y avait effectivement, comme tous les professeurs peuvent en avoir, il avait des digressions, et qui étaient parfois réjouissantes et drôles. Il avait beaucoup, il était très drôle.
La French Theory, pour en revenir à elle, François Cusset, elle a essaimé en fait dans le monde entier.
Oui. Alors, il y a vraiment un impact mondial, effectivement, très différent selon les territoires de réception.
En Amérique du Sud, il y a même un institut Guattari au Brésil.
Oui, alors en fait, voilà, ça dépend de quoi, mais en Amérique latine, elle s'est en quelque sorte combinée avec la tradition marxiste, mais elle l'a enrichie parce qu'on sait que c'est pas, voilà, ils sont pas d'accord sur tout. Il y a une sorte, voilà, il y a un indigénisme, il y a effectivement l'apport de la psychanalyse dans les mouvements sociaux et dans les rapports sociaux, hein, d'où un centre comme ça dans les favelas en Afrique subsaharienne, où il y a ce désir des chercheurs et des intellectuels de s'émanciper de la tradition occidentale. Donc, étrangement, ils sont passés aussi par Foucault, par Frantz Fanon, pour faire ça. Toute autre problématique en Inde, où il s'agit de réécrire l'histoire indienne qui a été mal écrite par les hautes castes. Et on le fait là aussi avec Derrida et la déconstruction, différent au Japon, différent dans d'autres coins d'Europe. Donc c'est tout à fait mondial, mais à chaque fois c'est souvent à partir de la French Theory américaine, parce qu'évidemment les gens ne lisant pas le français, c'est les éditions en langue anglaise de ces textes qui essaiment dans le monde entier.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tout au fond s'entrecroise. Vous parliez de Frantz Fanon, il y a la question coloniale, donc il y a l'émergence du tiers-monde, il y a le combat féministe et la déconstruction. Tout ça, c'est un entrecroisement.
C'est vraiment donc selon la formule classique désormais de Foucault et Deleuze, c'est une boîte à outils, hein, leur arsenal théorique.
Mais on ne donne pas la notice d'utilisation.
Voilà, sans notice d'utilisation, donc on l'invente, la notice d'utilisation, mais bien sûr une boîte à outils politique. D'ailleurs, on pourrait être un petit peu plus direct et dire plutôt une armurerie. Hein, c'est-à-dire, et c'est de ça, c'est de cet usage-là que font la plupart des lecteurs dans ces pays-là, parce que c'est lié à des luttes politiques, sociales. C'est lié à des contradictions aussi, parce que, vous voyez, ce moment du XXe siècle où la tradition marxiste décline un peu, où il y a de nouveaux mouvements sociaux liés aux minorités sexuelles, ethniques, à la décolonisation, en fait, c'est dans ce chaos-là que les outils, certains outils de la French Theory s'avèrent particulièrement féconds.
Mais à quel moment on peut dire que le vent a commencé à tourner? C'est-à-dire que, et c'est allé loin, parce que c'est allé au point de diaboliser la France quand même à un moment donné.
Le vent tourné, c'est-à-dire
où on a commencé à pointer du doigt en disant que c'était crétin, que déconstruire comme ça, on pouvait pas, c'était pas possible, etc.
Rien ne commence dans le champ des idées. Hein. Les choses commencent dans le champ social, politique, économique. À partir des années 80, effectivement, là aussi, cette bascule historique mondiale, hein, parce que le terme de Félix Guattari, hein, les années d'hiver, on est rentré dans les années d'hiver, on se demande quand est-ce qu'elles vont se terminer, même si les hivers sont un peu plus chauds. Donc c'est ce basculement politique qui met le vent de l'histoire dans les voiles des réactionnaires, des droites, bientôt des droites extrêmes, et qui ont besoin de boucs émissaires. Hein. Les droites extrêmes sont réactives. Mais elles ont besoin de boucs émissaires. Et bien voilà, la French Theory est un parfait bouc émissaire.
Et il y a eu Reagan, il y a eu Bush, Junior, enfin bon.
Oui, après on a une longue... Voilà, Trump n'est pas arrivé, n'est pas tombé du ciel. Et c'est pareil en France, c'est-à-dire qu'on utilise un repoussoir intellectuel et politique qui peut être les minorités et les mouvements de jeunesse type woke, comme on dit aujourd'hui, mais aussi leur soi-disant inspiration philosophique dans la French Theory, et on pointe ça du doigt comme un danger pour la civilisation, pour pouvoir mieux mettre à bas la démocratie et l'état de droit.
Et le monde devient binaire, en quelque sorte, David Lapougène ?
Oui, c'est-à-dire que je pense que les philosophes dont on parle, réunis sous le nom de French Theory, revendiquaient une forme de marginalité. Il est quand même frappant de voir qu'aucun d'entre eux n'a été dans des grandes universités. Ils étaient tous soit au Collège de France, soit à l'École des Hautes Études, soit à Vincennes, qui était un lieu un peu singulier, sans parler de Sartre avant même tout ça, qui était au bistrot. Il y avait une sorte de marginalité revendiquée. Ce qui s'est produit à partir, comme le dit François Cusset, à partir des années, un peu après les années 80, c'est une tentative de disqualification, ce qui est pas pareil. Entre revendiquer une forme de marginalité positive et subir une disqualification pseudo-théorique, il y a une grande différence. Et là, et au-delà de la disqualification, maintenant, c'est véritablement une forme d'accusation. C'est-à-dire, voilà, si tous les désordres du monde, c'est leur faute, quoi. C'est leur faute. Et effectivement, c'est exclusivement et honteusement politique, parce que ce sont des gens qui, en général, n'ont pas lu ces auteurs-là, et qui les caricaturent, et qui en font des sortes de punching ball sans en avoir lu une ligne.
François Cusset, il se trouve que, je le disais en commençant l'émission, vous êtes l'auteur d'un essai intitulé French Theory. Je crois d'ailleurs que vous aviez bossé là-dessus là-dessus, c'était pour le doctorat, non ? Pour
votre thèse ? Oui, en fait, c'était au départ, c'était ma thèse qui était un peu plus pointue et précise, et j'ai élargi l'angle pour en faire un essai. Ouais.
Ça, c'était en 2003, donc il y a déjà quelques années, et puis là, vous élargissez encore plus, parce que ça, c'est accessible. C'est même, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'humour dans cette BD, que vous avez donc co-écrite avec Thomas d'Aquin. Co-écrit le scénario, et lui a fait les dessins. À moins que ce ne soit, vous n'avez pas tenu le crayon, vous ?
Non, genre, moi, c'est vraiment pas, je sais pas faire.
C'est pas votre truc. Oui.
Mais effectivement, Thomas a été très actif, on a vraiment co-écrit ensemble. Oui, on a élargi, mais là, on a élargi grâce au changement d'époque aussi. Et de manière un peu ironique, on pourrait dire, merci Marine Le Pen, merci Donald Trump, merci tout le monde. Parce qu'effectivement, cet objet de French Theory, qui était un objet intellectuel un peu pointu il y a une vingtaine d'années quand j'ai sorti mon essai, est désormais une patate chaude idéologique et politique, dont on peut faire effectivement une bande dessinée, mais aussi, pourquoi pas, une série, un film, un spectacle, et surtout, des débats idéologiques houleux, alors quitte à caricaturer tout ça, mais puisque c'est un objet politique, il faut s'en saisir pour retrouver, là aussi, des armes de résistance à ce qui nous arrive, au fascisme qui vient, qui est là d'ailleurs, et puis retrouver aussi une joie de penser, parce que dans tout ça, il y a beaucoup de joie.
C'est vrai, ça c'est tout à fait vrai. Vous êtes bien sur France Inter, et c'est l'heure philo que vous écoutez, Curtis Harding, The Power. Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well, just leave your light, and don't you give up now. There'll be strife, but we're gonna dance it out. When the pain is released in your love, we'll increase in the power. We'll show in your love light.
Priorité au direct, les images nous viennent des États-Unis, elles sont impressionnantes. Regardez les partisans de Donald Trump qui montent les marches.
C'est un grand honneur de voir autant de personnes réunies devant soi, des centaines de milliers d'Américains qui se battent pour l'honnêteté, l'intégrité de nos élections, de notre glorieuse République, des personnes qui ne veulent pas que cette victoire électorale soit volée par des démocrates de la gauche radicale. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne concéderons pas cette défaite, cela n'arrivera jamais.
C'était le 6 janvier 2021, la prise du Capitole. François Cuisset, c'est la première planche de votre BD, c'est ainsi que s'ouvre l'histoire.
Oui,
que vous racontez.
Ce moment effrayant. Pourquoi ? Parce que c'est un moment d'une grande puissance révolutionnaire. Puisqu'après tout, ce sont des gens qui tentent de prendre le pouvoir, qui s'attaquent à son symbole absolu, au Parlement, au Congrès américain. Et ça veut dire une chose, c'est que la puissance révolutionnaire, le désir révolutionnaire, au sens vraiment de joie et de plaisir, est passé à l'extrême droite. Quelque part, la pensée de Deleuze, et d'ailleurs de Deleuze et Guattari ensemble, à prophétiser, en tout cas prévu, penser ce risque-là, le risque du détournement du désir révolutionnaire, le rapport entre révolution et désir, d'ailleurs, et leur pensée du fascisme, pour moi, voilà, anticipe sur tout ça. Parce que vous avez la grande erreur sur le fascisme, et on ne sera pas capable d'y résister si on pense comme ça, c'est de penser en termes de personnalité autoritaire, d'individu. Donc, tout est Trump. C'est Trump qui fait tout ça. Non. C'est un agencement, pour parler comme Deleuze et Guattari. C'est des affects, c'est des jouissances, c'est des désirs. C'est une offre et une demande, hein, en termes de percept, voilà. Et beaucoup plus que l'irruption d'un individu qui ferait tout. Hein. Donc, il est essentiel de changer de logiciel pour arriver à résister à ce fascisme-là.
C'est un symptôme et un résultat ? En fait.
Oui, et bien sûr, un résultat d'un mouvement historique long et de rapports sociaux, alors là, de masse, d'intérêt, beaucoup plus que l'invention d'un individu, puisque Trump, comme tous les chefs d'État, est une invention.
Qu'aurait pensé Gilles Deleuze de tout ça, David Lapougeade ?
S'il était, je préférerais qu'il soit là plutôt que moi pour le dire. Je crois qu'ils étaient très sensibles, et Guattari en particulier, mais Deleuze aussi, à, pour reprendre ce que disait François Cuisset, c'est-à-dire une sorte de, ça a commencé par une sorte d'agitation moléculaire, comme il le dit, c'est-à-dire des micro-fascismes, des petites séquences d'autoritarisme qui se diffusaient à travers le champ social, et puis ça se cristallise, ça prend de l'ampleur, ça se solidifie effectivement dans des figures électorales du type Marine Le Pen ou autre, ou Trump ou Bolsonaro, parce que hélas
la liste est longue
et cette cristallisation qui au départ qui est micro-social, eh ben elle finit par former de grandes courbes qui les intègrent et qui deviennent de grandes menaces pour l'équilibre mondial et pour la paix.
Parce que il faut tenir compte de tout, c'est absolument vrai. Les micro-fascismes en question, hein, donc toutes ces forces moléculaires souterraines qui peuvent être du côté de la joie, mais aussi du côté voilà de ces forces nocives. Bah, ce qui prépare le terrain, hein, bah c'est les réseaux sociaux, la technologie, l'aliénation technique. Tout ce qui s'est passé là depuis 20 à 30 ans, depuis ce tournant technologique, c'est-à-dire l'organisation de nos vies, de nos êtres par ces machines et ces algorithmes. Là aussi, il y a du micro-fascisme. Là aussi, il y a de la machine sociale autoritaire. Il y a de l'injonction, il faut être comme ça. Ouais, vous voyez comment nos enfants ou les jeunes se sentent obligés de correspondre à certains stéréotypes imposés. Donc tout ça, là aussi, il y a du micro-fascisme. C'est tout ça qui prépare. Trump ne tombe pas du ciel, c'est tout ça qui prépare le basculement politique. Il n'est pas un phénomène en soi, il est le résultat de phénomènes sociaux souterrains qu'encore une fois, la pensée de Deleuze et Guattari nous aide à comprendre.
Le pouvoir nouveau triste, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est la dernière planche de votre BD, c'est ce que disait Gilles Deleuze. Alors il y a quelqu'un dont on a parlé, mais qu'on n'a pas encore entendu, c'est Jacques Derrida.
Il y a toujours entre l'hospitalité et l'improvisation, qui est notre situation à l'instant, une affinité essentielle. L'acte d'hospitalité doit comporter une part d'imprévisibilité. L'autre arrive. Évidemment, il y a des rites, il y a des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise, où on ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité absolue, s'il y en a, est toujours, justement, impossible. J'entends par là, non pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire l'impossible. Et dans tous les textes auxquels vous faites allusion, il y a ce souci à la fois de penser ou d'endurer une limite, par exemple celle de l'hospitalité, et de penser un impossible qui est néanmoins désiré comme tel et qui n'est pas nécessairement négatif. Au fond, il s'agit de savoir si l'appel de l'impossible, par exemple accueillir l'autre sans poser aucune condition, sans même lui demander son nom à la limite, hein, sans parler de son passeport et de ses papiers, hein, le laisser non seulement entrer, mais éventuellement bouleverser les conditions du chez-soi dans lequel on l'accueille. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible, que nous jugerons impossible à différents lieux de l'impossible, mais en tout cas, cette hospitalité pure, inconditionnelle, est impossible.
Que vous inspirent ces propos de Jacques Derrida ? François Cusset, David Lapoujade, qui veut commencer ? François Cusset, vous avez pris des notes.
Non, j'ai noté un mot, mais ça m'inspire une grande tristesse, parce qu'effectivement, d'abord, c'est la voix d'un disparu, puis c'est surtout le... comment dire ? C'est hélas un petit peu 20e siècle, c'est-à-dire, vraiment, alors là, avec grande tristesse, il faut le dire, cette idée d'une hospitalité sans condition, qui est un concept magnifique, c'est-à-dire cette idée qui est précisément une responsabilité absolue envers l'autre pour l'accueillir, qu'on ne trouve pas que chez Derrida, hein. Cette idée, elle vient d'Anna Arendt, qui a pensé la question du refuge de l'hospitalité, voilà, avec tout le basculement des juifs et des gens de gauche d'Europe vers l'Amérique au milieu du 20e siècle. Tout ça, on a l'impression qu'à l'époque, à la fois du triplement du nombre de réfugiés à cause de la crise climatique et du basculement autoritaire fasciste à droite, et donc de l'utilisation de cette question comme bouc émissaire absolu, malheureusement, c'est inaudible. C'est absolument inaudible. Et pourtant, la nécessité morale, éthique de ce que exprime Derrida ici est plus grande que jamais, parce que il y a plein de facteurs, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a des facteurs démographiques, on a ce continent africain qui va doubler ou tripler sa population dans les décennies qui viennent, pendant que l'Europe vieillissante, où les gens seront remplacés par l'IA, se ferme comme une forteresse. Tout ça n'a pas de sens. Il faut entendre cette idée d'hospitalité inconditionnelle, parce qu'elle est à la fois éthique, donc générale, et extrêmement concrète, politique.
David Lapoujade.
C'est frappant, oui, de voir que l'hospitalité sans condition est quelque chose qui, Derrida dit bien qu'elle est impossible, mais ce qui est frappant, c'est de voir à quel point il y a une hospitalité possible, par exemple en Europe, mais comment multiplie les conditions ? C'est une hospitalité à condition, mais les conditions sont telles que presque personne ne peut y répondre. Donc les conditions sont en réalité destinées à rendre impossible l'hospitalité. Donc l'impossible, il est du côté de ces conditions qu'on multiplie de telle manière que personne ne puisse venir à part une élite choisie qui va renforcer les rangs de la puissance européenne. Donc cette hospitalité, effectivement, elle devient, c'est comme le dit François Cusset, c'est une pensée du XXe siècle.
C'est la fin du rêve américain, mais est-ce qu'il peut y avoir un rêve européen ?
Pas sous la forme actuelle, ça c'est sûr. Tout bouge tellement vite qu'il semble que l'Europe puisse offrir ou penser ou fabriquer une alternative, une imaginaire en tout cas déjà, enfin, au niveau du désir, de la projection, à ce rêve américain en panne. Après, il faut regarder à moyen et long terme. Hein. Trump ne sera pas là éternellement.
Vous pensez qu'il ne peut pas, grâce à l'IA, devenir éternel ?
Non, c'est plutôt qu'il y a, lui non, mais il y a de l'irréversible. Dans ce qui a eu lieu, il y a de l'irréversible. Le problème est plutôt là. Il y a effectivement un basculement géopolitique. Mais vous savez, l'erreur qu'on fait dans ces cas-là, c'est de penser Europe-Amérique comme si nous étions les seuls sur la planète. Or, nous sommes entrés aussi dans le tout-monde, hein, comme disait Édouard Glissant, où ce qui compte davantage à la fois en termes quantitatifs de nombre de gens et en termes politiques à venir, c'est le reste, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, et que finalement, ces questions d'hospitalité, ces questions de développement, développement et de projection du désir doivent être discutés avec eux, beaucoup plus que dans cet axe transatlantique un peu obsolète.
Alors, ça fait du bien, en tout cas, de vous avoir entendu et de vous voir discuter l'un avec l'autre, avec des jolis sourires. Les auditeurs ne le voient pas, mais c'était chouette dans vos regards l'un sur l'autre. François Cusset, il y a French Theory, donc, qui est publié à la Découverte en poche, c'est un essai. Et puis, il y a cette BD qui est absolument formidable, co-écrite avec Thomas d'Aquin, aussi à la Découverte Delcourt. Merci à vous. Gilles Deleuze, alors là, il y a deux essais, enfin, c'est pas des essais, ce sont ses cours, qui sont parus sous votre direction, David Lapoujade, on peut dire ça comme ça, sur les lignes de vie, c'est aux éditions de Minuit également, sur l'appareil d'État et la machine de guerre, donc ce sont des cours de Deleuze. Merci à tous les deux.
Merci à vous. Merci.
Tout de suite après les informations, je remets le son, Mathieu Conquet.